à La Mecque, sa ville natale. Il était appelé Al-Amin, le plus sûr. Al-Amin, quoique ses ennemis avaient pris à ses partisans, tué ses partisans, torturé ses partisans, confisqué leurs biens, il aurait pu, comme d'autres, en guerre, il aurait pu prendre leurs richesses qu'il avait. Mais quand ils sont entrés chez lui pour le tuer, ils ne l'ont pas trouvé là. Ils ont trouvé son cousin Ali à la place. Et il a laissé Ali dans sa maison en s'échappant. Pour une raison. Pour qu'Ali puisse leur restituer les objets de valeur, l'argent qu'il lui avait confié il y a des années. Peux-tu imaginer un homme qui est haï pour son message, opposé pour son message, voulu mort, mais ceux qui détestaient le message et voulaient le tuer, ils n'ont jamais demandé « Rendez-nous notre argent !» Car ils lui faisaient confiance. Parce qu'il savait qu'il n'y avait personne de plus digne de confiance à La Mecque que Muhammad. Il a été si vertueux, il était si modeste, il était si doux dans ses discours. Pourtant, il était dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le champ de bataille. Il était fort pour la défense d'Allah. Et quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le cherchaient au combat, il disait « Wallahi, nous l'avons vu au cœur des ennemis en combat. » Et il disait « Nous nous cachions derrière le prophète. Nous nous abritions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam au combat. » Il était un tel guerrier et leader sur le champ de bataille, dirigeant et luttant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois hors du champ de bataille, ses yeux étaient baissés et il s'exprimait avec douceur. Il était doux, il était accueillant, il était vénérable et doux et aimant et il pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais porté de soie, il n'a jamais mis d'or. Il ne s'est jamais habillé avec fierté, il ne s'est jamais habillé ainsi. Il n'a jamais marché avec fierté, arrogant. Il n'est jamais apparu devant les gens comme s'il était un roi ou un empereur, même quand il était le souverain absolu. C'était un homme recevant pendant une période de 23 ans, sur une base quotidienne. Intermittemment, il recevait les 6626 versets du Coran sur une période de 23 ans, recevant la révélation. Et quand elle est arrivée, ils ont dit, il tremblait. Son corps était en émoi. Si quelqu'un avait la main ou la jambe sous lui, on avait l'impression que leur main ou leur jambe était écrasée par la révélation qui descendait. Il transpirait et son corps frémissait. Les fous parmi les incroyants disaient qu'il avait de l'épilepsie, car ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à cet homme. Je vous ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si ce Coran était descendu sur une montagne, elle se serait effondrée. Que pensez-vous que cela aurait fait au cœur d'un homme? Allah a préparé le prophète pour cela. Mais quand la révélation est arrivée, ils l'ont vu. Mais le prophète était aussi ce jour-là aidant les pauvres, visitant les malades, déchargeant l'armée, comme un dirigeant, comme un juge, discutant avec les gens, s'adressant aux femmes, donnant la zaka, cousant ses habits, nettoyant sa maison, en train de faire les courses, en train de faire ce que nous faisons, et le soir, en train de prier pendant 4 ou 5 heures d'affilée, et le jour, en train de lutter, déchargeant les armées, en donnant des règles et des jugements, en clarifiant le Coran, éduquant les gens sur leur comportement. Comment un homme pouvait-il faire tout ça et se tenir 4 ou 5 heures la nuit d'affilée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il alla dans un lieu nommé Taïf pour donner son message à ses gens. Taïf est une ville en hauteur, à environ 60 ou 50 miles de la Mecque, et il fit le chemin à pied. Et à son arrivée, les nobles de cette cité, les nobles de cette ville, envoyèrent des éléments indésirables, des gamins et des mendiants, pour lancer des pierres au prophète et lui cracher dessus. Et il saigna, et il était triste, et il s'assit sur une souche d'arbre ou sur une pierre. Et il se demandait pourquoi. Pourquoi je n'ai pas pu parler à ces gens? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas efficace. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoya Jibril pour lui dire « Ô Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala te salue. Allah subhanahu wa ta'ala te salue. Salamu alaykum Muhammad. Et il m'a ordonné de dire aux anges des montagnes de part et d'autre de ces gens de se rassembler comme ça et de les écraser si tu le souhaites. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Non, je ne veux pas. Laissez-les. Peut-être qu'un jour ils seront croyants. » Aujourd'hui, Taïf est l'un des plus beaux endroits où les fleurs s'épanouissent, où il n'y a pas d'autres fleurs. Et tous à Taïf sont musulmans aujourd'hui. C'était la façon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était une bénédiction même pour ses opposants. Alors, quand il avait l'opportunité de se venger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cherché à se venger. Il n'a jamais cherché de représailles. Il n'y a personne dans l'histoire qui puisse rivaliser avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas de Confucius, pas de Bouddha, pas Alexandre le Grand, pas Bonaparte Napoléon, pas Jules César, ni Constantin, ni Mahatma Gandhi, ni le roi Richard, ni le roi Ferdinand, ni Winston Churchill, ni Charles Darwin, ni Mao Tse-tung, ni Deng Xiaoping, ni Marx, ni Einstein, ni Martin Luther, ni Martin Luther King Jr., pas George Washington, pas George, pas John F. Kennedy et certainement pas Bill Clinton, ni Blair, ni Howard, ni Bush Senior, ni Bush Junior. Pas vous, pas moi, ni nos parents, ni nos grands-parents, ni nos ancêtres ne peuvent égaler cet homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous,